vient vous parler ce matin comment devenir une autre personne. Alors, Évangile de Jean, chapitre 3, au verset 1er. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme ou de toute femme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors voyez-vous, mes amis, car Nicodème, ce chef juif, est venu de nuit rencontrer Jésus, il ne pouvait pas s'imaginer à quel genre de personnage il allait avoir affaire, et surtout il ne pouvait même pas concevoir ce que cet homme, que l'on appelait à l'époque le faiseur de miracles, allait lui dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce docteur en théologie, bardé de diplômes, ayant à son actif de nombreuses expériences de vie, s'entend dire, de la part de cet homme, de ce Jésus qu'il est venu voir, il s'entend dire qu'il est loin, très très loin du royaume de Dieu, et que s'il veut y entrer, il doit subir en son être une transformation aussi radicale que celle que subit la chenille pour devenir un papillon. Imaginez-vous dans la tête de ce personnage qui devait certainement avoir 80 ans. Il a été totalement bouleversé et déstabilisé. Mais vous voyez, au travers de cette parole, Jésus s'adresse au genre humain, à tout le monde. Imaginez que, au temps de Bouddha, de Monsieur Bouddha, imaginez que Jésus ait vécu à ce moment-là. Ben, Monsieur Bouddha aurait été le voir, comme Nicodème. Et il lui aurait dit, je suis en train de créer un système, vraiment une philosophie de vie. Ah, c'est sensationnel, ça va bouleverser le monde. Et Jésus lui aurait dit, comme à Nicodème, il lui aurait dit, Monsieur Bouddha, il vous faut naître de nouveau si vous voulez voir le royaume de Dieu. C'est incroyable. S'il avait vécu au temps du Dalai Lama, le Dalai Lama aurait été le voir. Il lui aurait dit, ah, tu parais-tu que tu es un grand prophète.
Moi aussi, j'ai une philosophie de vie incroyable à proposer aux êtres humains. Il lui aurait dit, c'est bien ce que tu veux proposer. Mais si tu ne nais pas de nouveau, monsieur le Dalai Lama, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. S'il était là aujourd'hui, et que Benoît XVI aille le voir, notre pape, il irait voir Jésus, il dirait, ah, j'ai vraiment 1 milliard de personnes dans le monde. Et il lui dirait la même réponse. Il lui dirait, monsieur Benoît XVI, il vous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. S'il avait vécu au temps de Mahomet, Mahomet aurait été voir Jésus. Il aurait dit, paraît-il que tu es un grand prophète, mais on voudrait avoir la lumière. Je suis en train de créer une religion parmi les Arabes sensationnelle. Waouh, j'ai un système merveilleux à leur donner. Et il dirait, écoute, monsieur Mohamed, il te faut naître de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, le message de Jésus s'adresse à l'humanité tout entière, à tous les systèmes religieux de la terre. Il dira au peuple juif, il te faut naître de nouveau. Et il dira à tous les peuples païens, il vous faut naître de nouveau si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu. À tous les chefs religieux de tous bords, comme je vous l'ai dit, il leur dira, il vous faut naître de nouveau. À tous ceux qui font partie d'une religion, qui sont adeptes d'une secte, il leur dira, il vous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il le dit aussi à chaque politicien, à chaque scientifique, à chaque philosophe, à chaque érudit de la planète, messieurs les savants, il vous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est une bombe qu'il a lâchée, notre sauveur, à cet homme. Vous imaginez, il avait une carrière bien établie, il était bardé de diplômes. Et il s'entend dire, Nicodème, arrête, ne me présente pas ton système. Si un homme ne naît de nouveau, si une femme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu et il ne peut même pas y rentrer. Pourquoi ? Mais bien aimé, pourquoi une telle insistance ? Moi, ça m'a posé question. Alors, je suis allé à l'Écriture et j'ai dit, Seigneur, mais montre-moi. Et le Seigneur m'a montré. Vous savez, la Bible, elle répond à tout. Parce que Dieu a la réponse pour les hommes. Depuis la chute. Alors, bien sûr, il y en a qui ne croient pas à la chute. Bon, ça, c'est leur affaire. Mais la Bible nous dit que l'homme a chuté. Depuis la chute, les êtres humains ont une vie que l'on appelle la vie naturelle. Ou si vous préférez, la vie biologique qui anime son âme et son corps. Or, cette vie étant séparée de Dieu, nous devons quand même l'admettre. Il faut quand même pas sortir de Saint-Cyr pour dire ce que je vais vous dire ce matin. Il faut l'admettre, cette vie naturelle ou vie biologique est en voie de dépérissement, d'affaiblissement et de mort. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Nous sommes des mortels. C'est ça qui est fou. Je suis allé il n'y a pas longtemps en Suisse, je l'ai dit dimanche dernier, mais je vais vous le rappeler, un homme de 47 ans, je l'ai connu, je l'ai côtoyé, un merveilleux personnage. Il a tout réussi, tout ce qui touchait se transformait en or. Il avait vraiment une grosse entreprise, beaucoup d'ouvriers, une belle famille, 3 enfants. Il avait fait un check-up complet, tout allait bien, son cœur était parfait, tout marchait bien. Il a acheté des bâtiments, il a mis sa famille à l'abri. Extraordinaire. Puis un matin, il rentre de la chasse. Il reçoit un appel téléphonique. Au premier appel téléphonique, il répond. Il dit, je serai là à 9h. Il en reçoit un deuxième. Au deuxième, Dieu a enlevé la prise de son cœur. Il est mort instantanément dans sa voiture. 47 ans. Mais il venait de dire 3 semaines avant à des amis chez qui je loge quand je vais en Suisse. Il leur a dit, je suis tranquille, je mis mon âme au repos, je peux jouir absolument de tous mes biens. C'est écrit dans la Bible, il y a une histoire comme ça. Et Dieu dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Qu'est-ce que tu feras de tes hôtels? Qu'est-ce que tu feras de tes logements? Qu'est-ce que tu feras de ta fortune? Qu'est-ce que tu feras de tous ces comptes en banque qui sont remplis quand tu seras mort? J'ai fait beaucoup d'obsèques, vous savez. Je n'ai jamais vu un corbillard être accompagné d'un coffre-fort, c'est plutôt la famille qui en profite, ou les amis. Et là, récemment, Je retournais dans ce pays. Une dame de 60 ans, tout allait bien. Pareil, une méningite foudroyante l'a touchée. Et elle est partie dans l'éternité. Je ne sais pas, mes amis, quel est le temps que Dieu vous accordera sur cette terre. Vous pouvez vivre, et je le souhaite ardemment, très très vieux et en bonne santé, ça serait encore mieux. Puis vous fermez les yeux et partir dans l'éternité. Mais ça, je souhaite ça aux gens. Malheureusement, nous sommes obligés de constater que la vie, elle est éphémère. Ce que je tiens aujourd'hui, je peux le perdre demain. Et le Seigneur nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Quand je fais les obsèques, je le dis toujours aux gens, maintenant vous avez un cercueil devant, vous viendrez un jour devant moi, ou peut-être vous viendrez à mes obsèques. Mais ma vie est en règle, aujourd'hui avec Dieu. Est-ce que la vôtre l'est ? Il te faut naître de nouveau, c'est impératif parce que tu n'as que la vie naturelle. L'être humain, Dieu lui avait fait un autre choix. Il lui avait proposé à la création d'avoir une deuxième vie qui allait se joindre à la vie biologique. C'était la vie incréée, la vie immortelle, la vie spirituelle, la vie éternelle que seul Dieu possède. Il avait promis à l'homme de lui accorder cette vie. Si simplement l'homme avait le courage, l'audace et le cran de dire à Dieu « J'obéis à tes paroles ». Nous savons l'histoire, nous savons que Adam et Ève ont choisi une autre voie, ils ont choisi une autre volonté, et en choisissant cette autre voie, ils se sont privés de la vie éternelle. Mais je peux vous dire une chose, vous sortez d'eux, vous sortez du premier couple. S'ils vous ont engendré avec la vie naturelle, ils vous ont engendré aussi avec la mort spirituelle, parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Aujourd'hui, on souhaite avoir l'eau de jouvence. Ouais, c'est formidable. On prendrait un petit peu dedans, on boirait, et hop, ça y est. De 61 ans, le Joël Louvia, il revient à 20 ans. Non, mais on aimerait ça. Qui n'a pas rêvé de cela? Malheureusement, on se ferme les yeux. On ne veut pas voir la réalité en face. Vous n'avez que la vie biologique. Et Jésus l'a dit à Nicodème, il faut naître à une autre vie. Parce que si tu reçois ma vie, cette vie incréée que je possède et que je veux te donner, elle va pénétrer ta vie biologique et il va y avoir une mutation comme le papillon, comme la chenille, et elle devient papillon. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, hein. Moi, je ne peux rien faire. Je peux simplement vous apporter la parole de Dieu, la Bible, l'imposture millénaire. Est-ce que vous savez ce qu'est l'imposture millénaire? Oh, je vais vous le dire. C'est que les hommes ayant été privés de la vie de Dieu, eh bien, ils n'ont cessé de chercher à obtenir cette vie par leur propre force. Alors l'humanité a créé des religions. Pourquoi les hommes ont-ils créé toutes ces religions? Parce que l'imposture diabolique qui est venue dans leur pensée, c'est que les gens ont cru à la génération spontanée. Je vous encourage à lire un livre qu'a écrit Alfred Kuhn. Ce livre, son titre, c'est « Laissez-vous transformer ». Il parle dans cet ouvrage de la génération spontanée, c'est-à-dire ce que les scientifiques avant Pasteur, avant le grand personnage de Pasteur qui a trouvé le vaccin de la rage, ils ont cru que la vie éternelle pouvait naître de la non-vie. Oh, je vais vous expliquer, et vous allez comprendre. Cette conception était partagée par de nombreux scientifiques de l'époque. Ils pensèrent qu'il suffisait de laisser traîner quelques aliments pour qu'ils engendrent des moucherons. Ils croyaient même que les souris pouvaient naître des chiffons sales. Mais c'était une théorie, mes bien-aimés, qui existait. Hein. Ils pensaient vraiment que la vie venait de la non-vie. C'est ce qu'on en a appelé la génération spontanée. Or, Pasteur est venu dire au monde scientifique de son époque qu'il se trompait, que les moucherons naissent d'œufs pondus par des moucherons et que les microbes proviennent des microbes. Monsieur ou madame microbe pond des œufs et de ces œufs viennent des microbes. Mais ça ne n'est pas comme ça. Il a démontré que la vie ne peut être engendrée que par une autre vie semblable. Si vous comprenez ce que je vous dis ce matin, alors si Jésus possède la vie éternelle, la vie incréée, je peux aller lui demander qu'il me la donne, parce que s'il l'a, je peux l'obtenir. Mais ne croyez pas et ne tombez pas dans l'imposture millénaire de faire comme les hommes qui ont dit nous allons créer des religions et nous allons faire par toutes sortes de sacrifices, de bonnes œuvres, enfin un tas de choses comme ça, nous allons incliner le cœur de la divinité et faire en sorte que nous obtenions par nos forces et par nos œuvres ou par nos méthodes, nous obtenions la vie éternelle. Elle ne s'obtient pas de cette manière. La vie incréée, vous savez, il y a beaucoup de gens qui essayent de vivre en chrétien, de se comporter en chrétien, d'agir moralement en chrétien. Tous les débuts de l'année, moi je me souviens, avant que je me convertisse, je faisais des vieux pieux. Hein, l'année prochaine, je ferai ceci. Le 2 janvier, j'avais déjà tout annulé. De toute manière, vous me ressemblez tellement que je pense que vous aussi, vous faites des vieux pieux, puis le 2 ou le 3 janvier, c'est cuit. Hein. J'étais un fumeur aussi, moi je me souviens à l'époque où je disais, je m'arrête quand je veux. Quand je veux, il n'y a aucun souci. Il y en a qui l'ont fait, moi je ne pouvais pas. J'ai essayé 20 fois, mais quand j'ai crié à mon sauveur qui m'aide à stopper le fumer, il m'a donné la force pour cela. Mais vous voyez, l'être humain, il se vante de beaucoup de choses, mais on n'est quand même très très fragile. La vie incréée de Dieu ne se reçoit que par le contact, mes frères et sœurs, que par le contact avec celui qui en est la source, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, le Christ de Dieu. Celui qui l'a envoyé sur la terre. Si vous lisez les évangiles, ne lisez pas les évangiles comme on lit un livre ordinaire. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez cette vie incréée qui apparaît. Vous la voyez qui parle, qui commande au vent de se calmer, qui stoppe la pluie. Vous voyez cette vie incréée qui s'approche de mort, et qui touche de mort, et le mort se lève. Vous voyez cette vie incréée qui prend des pains et des poissons et les multiplie. C'est incroyable. Aux noces de Cana, 600 litres de vin Jésus a fait. Enfin, mais c'est pour vous montrer, Jésus n'a pas fait ça pour épater la galerie. Il a fait ça pour dire, moi, la vie éternelle, moi, je suis là et je peux faire ce que je veux. Quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, alors qu'il sentait depuis 4 jours, il était en putréfaction, cette vie incréée a parlé par la bouche de Jésus et a dit, Lazare, sors ! Et le mort, que vous le croyez ou pas, le mort est sorti. Cette vie, quand elle parle, elle produit quelque chose. Voilà pourquoi l'apôtre Jean va écrire dans sa lettre, dans son évangile, il va dire à ceux qui ont accueilli le Christ, qui ont cru en lui, à ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés de nouveau, c'est-à-dire d'en haut. L'apôtre Jean a reconnu que tous ceux qui, à l'époque, ont accepté le Christ ont reçu de lui cette vie éternelle. Elle était préparée pour l'homme. L'homme n'a pas pu l'avoir. Vous me comprenez ce matin? Vous êtes des gens avec une vie périssable. Une vie qui est en train de s'affaiblir. Puis un jour, vous ne comprendrez pas pourquoi elle va s'éteindre. Et cette vie-là, malheureusement, s'il n'y a pas un changement radical ici-bas, cette vie-là va passer l'éternité loin de Dieu. Je ne peux pas me mettre dans le cœur de Dieu. Tout à l'heure, mon frère a parlé du sang de Jésus. Je ne peux pas comprendre. Je sais que dans la Bible, il est dit que la vie de l'âme est dans le sang. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi cet homme a dû verser son sang. Il y a un mystère qui m'est caché. Mais ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, que si Dieu a choisi que le Fils de Dieu, son Fils, verse son sang pour vous, c'est que c'était l'unique moyen de salut pour l'humanité. Je le comprendrai là-haut. Ici-bas, il me demande simplement de mettre ma foi en lui et dans son œuvre. Alors Nicodème, ce pharisien, bardé de diplômes, ne croyez pas qu'il n'ait pas compris le message. Souvent, quand on lit ce texte, on dit « Oh, il était un peu sénile, le papy, hein ?» Il était dépourvu de bon sens. Vous vous rendez compte ce qu'il a été dire à Jésus? Mais comment un homme vieux peut-il re-rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous pensez vraiment que c'est ce qu'il a voulu dire à Jésus? Faut pas oublier qu'il parlait à un juif. Et que le langage imagé de l'Ancien Testament était très connu par les juifs, les gens du peuple, mais aussi par ceux qui enseignaient. En réalité, il lui dit cela. Il dit à Jésus: comment moi qui suis âgé et bien ancré dans mon système religieux, puis-je tout abandonner pour recommencer à zéro? Le renoncement que tu exiges de moi est une véritable mort, voire même un bouleversement sans précédent. Oui, Nicodème, pour naître à la vie éternelle, eh bien il a compris qu'il lui fallait tourner le dos à son ancienne vie, qu'il fallait cesser de croire en lui, de se confier dans ses propres ressources pour se confier dans la parole de Dieu. Abandonnez votre système de valeurs terrestres pour prendre le système de valeurs de Jésus-Christ. Alors c'est certain que ça, c'est difficile à rentrer dans notre petite cervelle. Mais je vous garantis que c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu dire, tiens, tu es aujourd'hui plombier, tu vas t'arrêter d'être plombier pour faire autre chose. C'est pas ce qu'il a voulu dire, le Seigneur. Il a voulu dire, tu dois recommencer ta vie à zéro, même, peu importe le travail que tu fais. Peu importe l'activité dans laquelle tu es. Il faut t'arrêter. Et cesser de confier, de te confier en toi-même. Cesser de te confier dans tes ressources. Cesser de vous confier dans vos religions. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi des gens qui ont passé toute leur vie à vivre vraiment, vraiment dans le péché, enfin loin de Dieu, le jour où on les enterre, c'était le meilleur personnage de la Terre. On a dit, c'est vraiment, c'était un gars super. Quand vous le côtoyez, c'était un pourri, hein. Mais il était super. Pourquoi pas dire la vérité? Si l'homme ne croit pas en Dieu, l'incrédulité, c'est pas un manque de foi. L'incrédulité, c'est une défiance. Défiance aux paroles que je vous dis ce matin. L'incrédulité, c'est de dire, il est malade celui-là, il faudrait lui donner des cachets pour le soigner. L'incrédulité, c'est de dire, Dieu a dit ça, il donne la vie en son fils, moi, basta, j'ai ma force, je me débrouillerai. Vous n'avez pas entendu les gens qui sont dans les religions, ils vous diront, j'ai la foi, je vis ma foi à ma façon. Il n'y a pas deux façons de vivre la foi, il n'y en a qu'une, celle de la Bible. Je suis croyant, mais non pratiquant, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça veut dire, en fin de compte, je suis pas un croyant, mais pour te faire plaisir, je suis croyant. Mais en réalité, je ne crois pas et je me fiche de Dieu. Il faut être honnête. J'avais un grand-père qui m'a toujours dit, il m'a dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Je n'y crois pas, c'est des foutaises. J'ai dit, papy, quand même, un jour, tu vas mourir aussi. Non, moi, je n'y crois pas. Et premièrement, quand je vais mourir, c'est ni fleurs, ni couronne, de la maison au cimetière. On a respecté ses vœux, que c'est triste. J'ai trouvé mon grand-père mort. Le lendemain, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé mort. Il avait, vous me croirez si vous voulez, hein, c'est pas une blague, je ne vous fais pas ça pour vous faire frémir. Il avait les yeux ouverts, il a été effrayé et les cheveux étaient dressés sur sa tête. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un comme ça. Il n'a pas dû voir un ange, hein, mais il a fait son choix. Et je le respecte. Et Jésus, ce qu'il aime, c'est qu'on lui dise non. Oui, mais au milieu en disant, je ne suis pas si mal que ça, et je me débrouillerai avec le Seigneur, ça c'est la pire des choses. Et Nicodème était quand même vrai dans son âme, parce qu'il a été de nuit, il ne voulait pas remuer un petit peu la sauce, hein. Il a été de nuit, mais il a été vrai, il a compris. Tu veux vraiment, Seigneur, tu veux dire qu'il faut que je retourne à zéro, que toute ma vie de pharisien, toute ma vie de docteur de la loi, il faut maintenant que j'arrête de me confier en moi, croyant que ma religion juive est en train de mourir le ciel. Il faut que j'arrête ça. Mais c'est une mort que tu me demandes. Oui, c'est une mort. Pourquoi? Parce que pour naître, excusez-moi, il faut cesser une activité. Il faut recommencer quelque chose. Alors, il lui posera une question. Comment cela peut-il se faire? Le problème, c'est que Nicodème était un docteur qui enseignait dans la loi juive. Et dans l'Ancien Testament, le salut était exactement ce que Jésus annonçait dans le Nouveau Testament. Il n'y avait rien de nouveau. On a été sauvés par la foi. Par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu et dans les paroles de Dieu. En avouant son incapacité à réaliser par lui-même l'exigence de Jésus, l'interrogation de Nicodème met à bas tous les systèmes religieux de notre monde qui cherchent à attirer les faveurs divines par toutes sortes de règles, de méthodes ou de bonnes œuvres. Et comme nous l'avons vu, la vie éternelle, la vie incréée que Dieu seul possède, n'est communiquée que par un contact avec Jésus-Christ. Un contact, mais qui s'opère par le moyen de la foi. Alors les gens me disent, ça a dû vous arriver, mais je me souviens quand je me suis converti, moi j'étais tout zélé, hein, tout fou, je parlais à mes copains de Jésus et tout, le pauvre Joël, il est vraiment fatigué. Et il me disait, alors il réglait le problème en me disant, tu as eu une grâce, tu as une foi qui t'est tombée du ciel sur toi. Et je leur disais, non, la foi, vous l'avez. Il me dit, ah non. On n'a pas la foi que tu as. Mais je dis, si vous l'avez la même foi, le seul problème, c'est que vous la mettez sur autre chose que sur Dieu. La foi que Dieu nous a donnée, mes frères et sœurs, elle est utile pour manger, pour voyager, pour acheter, pour vendre. Je vais souvent sur Internet, je paye sur Internet avec ma carte, je fais mon numéro dans une confiance totale. Mais on le fait, je monte dans un train, je ne vais jamais voir s'il y a un conducteur. J'ai pris souvent l'avion pour aller en Afrique et tout. Je n'ai pas été voir s'il y avait un pilote. Vous imaginez s'il y avait été voir devant pour dire, il y a bien un pilote là. Vous montez, vous prenez votre voiture, est-ce que vous pensez une seconde que vous allez mourir? Quand vous vous endormez le soir, vous pensez une seconde que vous n'allez pas vous réveiller le lendemain? Non, nous nous endormons dans la foi, nous mangeons dans la foi, nous vivons dans la foi tous les jours. Et Jésus dit, cette foi-là que tu as, que tu te sers tous les jours, mets-la sur moi aussi. Fais-moi confiance. Mais la foi qui nous fait devenir une nouvelle personne, ce n'est pas un sentiment. Aujourd'hui, on vous a chanté des cantiques, ça remue vos émotions, ça travaille les tripes. Mais ça, ce n'est pas la foi, mes frères et sœurs. La foi, ce n'est pas une adhésion intellectuelle à un dogme religieux, quel qu'il soit. La foi n'est pas une force morale qui m'est donnée pour manipuler Dieu. Je vais m'en servir du Seigneur. Non, la foi dans la Bible, elle est une puissance d'appropriation. Dieu m'offre la vie éternelle, ma foi la prend. C'est tout. C'est trop simple. La foi, c'est comme quand je mange. J'avale la nourriture, je peux avaler du poison et mourir. Mais si je prends de la bonne nourriture, je vais avoir les forces qui vont être tirées de la nourriture que j'avale. Ma foi, c'est comme avaler. Excusez-moi, j'essaie de vous donner des termes pour vous faire comprendre. Dieu me propose la vie éternelle. Ma foi l'avale. Je la prends. On a pris la Sainte-Seine tout à l'heure. Participer à mon corps et à mon sang. Je l'ai fait dans la foi. Je n'ai même pas besoin de voir Dieu, moi. Vous vous rappelez de saint Thomas? Saint Thomas, il y en a qui disent, je suis comme lui. Jésus est arrivé, il lui a dit, mets tes doigts ici, dans mes trous. Prends ta main, mets-la dans mon côté qui a été percé. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas méfiant, mais place ta confiance en moi. Et il est tombé à genoux. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, imaginez que Dieu nous fasse la grâce ce matin de voir le Christ apparaître au milieu de nous. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous êtes tous à genoux, à ses pieds. Les malades le touchent et sont guéris. Cette vie répandue sur nous nous change, nous transforme instantanément tous. C'est ce qui va se produire. On dit que les chrétiens sont un petit peu des gens pas très bien dans leur tête. Ils attendent le retour de Jésus. Mais alors, ils n'attendent pas le retour de Jésus comme n'importe qui. Ils attendent que si jamais Jésus vient arriver comme ça, aujourd'hui, on est élevé de la terre et transformé en un clin d'œil. Alors ça, c'est du Spielberg tout craché. Je crois que ça va se passer comme ça. Parce que Jésus l'a promis. Et si il tarde à venir et que je dois aller, mon corps doit aller au cimetière, ce n'est pas un problème. Mon âme sera auprès de lui. Alors comment fonctionne la foi? Je voudrais terminer avec cela ce matin. Comment fonctionne votre foi? Parce que Nicodème a eu ce point d'interrogation et Christ, Jésus-Christ, lui a donné la réponse. Il va lui raconter une histoire. Et je voudrais quand même vous dire, mes frères et sœurs, que si nous voulons faire un enfant, moi je suis père de 3 enfants, Eh bien, c'est simple. Il faut qu'un homme donne sa semence à une femme. On s'arrête là. Et si ça fonctionne normalement, 9 mois après, on ne dort plus. Ça m'est arrivé 3 fois. Mais c'est ça. La Bible est appelée la semence de la parole de Dieu. Alors Jésus va dire à Nicodème une histoire. Il va lui raconter un fait historique qu'il connaissait parfaitement, l'histoire des serpents dans le désert, qui piquaient les Juifs, qui mouraient dans le désert. Et ils sont venus vers Moïse parce que c'était des gens désobéissants, des gens rebelles. Et comme punition, Dieu leur a dit « Je vais les secouer, mais en même temps je vais me servir de cette expérience pour leur parler au niveau de la foi. » Alors Dieu a envoyé les serpents brûlants et ils ont touché les Israélites, ils ont mordu les Israélites et ils mouraient. Alors ils sont venus vers Moïse, ils ont dit « Intercède auprès de Dieu, on a péché devant l'Éternel, on a péché. » Nous voudrions qu'il nous donne la solution. Et Dieu a donné une solution extraordinaire à Moïse. Il a dit, tu vas te faire la représentation d'un serpent. Il n'a pas dit, tu prendras un serpent, hein, quelconque. Mais tu vas te représenter un serpent en Érem et tu vas l'élever dans le camp d'Israël. Et quiconque aura été mordu par un serpent et qui sera prêt à mourir s'il a le culot, s'il a l'audace, s'il a le cran de se retourner pour voir le serpent des reins, il sera guéri instantanément. Et petit rigolo, au milieu, tu crois pas ces sornettes, toi, et ouf, il mourait. L'autre à côté a dit, ouf, il est temps que je me tourne vers le serpent. Hein. Il se tournait vers le serpent et il était instantanément guéri. Quiconque aura été mordu et regardera le serpent d'airain placé sur la perche au milieu du camp, conservera la vie. Ce que Dieu demandait aux Israélites qui avaient péché contre lui, ce n'était pas de regarder avec désinvolture ce serpent d'airain qui était élevé au milieu du camp d'Israël. Non, non, les Israélites devaient voir en ce serpent la représentation du mal moral qu'ils avaient commis contre Dieu, et que Dieu avait vaincu par sa miséricorde. Voilà pourquoi ce n'est pas un homme, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui est monté sur la croix. C'est un homme parfait, c'est un homme pur, c'est un homme saint qui a représenté toute l'humanité. Puisque nous sommes descendants d'Adam, le premier Adam, puisque toute la génération, enfin, tous les peuples sortent de lui et que nous sommes conduits dans le péché. La Bible nous dit que Jésus est appelé le second Adam. Mais lui, il n'a pas commis de faute. Lui, il a dominé tout le mal. Il est devenu l'homme parfait et il a dit à son père, « Voilà la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Ma vie biologique, ce n'est pas la vie spirituelle et éternelle qu'il a donnée sur la croix. C'est la vie qu'il avait reçue de Marie. » De la Vierge Marie. Il avait reçu la vie biologique de Marie, sa mère. Et il l'a offerte, cette vie, pour toi et pour moi. Et s'il te demande ce matin, comment tu peux naître de nouveau, c'est simple. Regarde ce que tu aurais dû devenir. Dieu était en droit d'exiger de toi la mort à cause de tes péchés. Et il ne l'a pas voulu. Puisque la vie est dans le sang, ton sang aurait dû être versé pour expier tes fautes. Vous imaginez la boucherie? Dieu a choisi un être, un seul, son fils. Et lui, il a dit, je vais donner ma vie, je vais verser mon sang pour l'ensemble des pécheurs de l'humanité. Il ne te force pas, mon ami, ce matin, à te convertir. Mais ce message retentira dans tes oreilles le jour où tu partiras dans l'éternité. Il y aura un écran qui s'allumera et tu me reverras. Et tu entendras la parole de Dieu et il te dira pourquoi ce jour-là tu n'as pas placé ta confiance en mon Fils. Je détenais dans mes mains la vie éternelle, la vie incréée et je voulais te la donner, tu ne l'as pas voulu. Et d'autres diront merci, merci, je l'ai maintenant la vie éternelle, je l'ai reçue parce que j'ai tourné mes regards vers le Christ et j'ai vu ce que je méritais subir. La Bible nous parle d'un châtiment que le Christ a subi pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention avec moi, mais dans le texte que nous avons lu, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Alors vous comprenez bien, là encore, il y a un langage imagé. On n'est pas juif, hein, je suis obligé de vous expliquer les choses, mais naître d'eau, ça ne veut pas dire de prendre un bain. Vous comprenez bien, Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Donc ce n'est pas une question de baptême, parce que j'ai été baptisé enfant, moi. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés. C'était les rites de notre religion, et il n'y avait pas de problème, on le faisait sans aucun problème, mais ce n'est pas un bain qui m'ouvre le ciel. Naître d'eau, c'est recevoir la purification qui vient du ciel. C'est être pardonné et lavé de tous ses péchés en regardant avec foi le Fils de Dieu subissant à ma place le châtiment qu'exigeait la loi divine. Si vous faites cela ce matin, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. C'est le plus beau verset de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Pierre, Jacques, Marie, Antoine, et mettez votre prénom, ne périssent pas, n'aillent pas dans l'éternité, loin de Dieu, mais qu'ils puissent croire en lui, c'est-à-dire avoir ce regard de la foi et obtenir maintenant la vie éternelle. Et naître d'esprit, c'est quoi ? Ben, ce n'est pas compliqué si l'obstacle est enlevé. Si vous êtes purifié de vos péchés, si vous êtes nettoyé de tout votre passé qui déplaît à Dieu, de cette vie que vous avez et que vous vous servez pour vous-même, alors le Saint-Esprit va descendre dans votre cœur. La semence divine va venir en vous et cette semence va créer un enfant de Dieu. Ça, je ne sais pas comment ça se passe, j'en sais rien, mais c'est comme Jésus l'a dit. Tu sens le vent, tu ne sais ni d'où il vient et ni où il va. Ce que je peux vous dire une chose, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, on l'entend. Dernièrement, on était avec mon épouse, on a vu notre dernier petit-fils. Il est magnifique, évidemment, comme tous les petits-fils sont très beaux. Mais j'ai été étonné d'une chose. Sa mère était dans la cuisine à peu près comme il était à peu près ici. Et sa maman était au fond, vers la porte. Quand il a vu sa mère, ses yeux se sont ouverts comme ça, et ça pétillait. Comprenez qu'un enfant de Dieu, c'est ça. Quand vous êtes né de nouveau, vous aimez Jésus, vous aimez les choses de Dieu, vous avez envie de connaître la Bible, connaître toute l'histoire de la Bible. Alors vous intégrez une église, et surtout vous obéissez au moins à ce que le Seigneur vous demande. La vraie foi, c'est ça. Souvent, les gens me disent, mais c'est quoi on voit la vraie foi à quoi? Pour moi, au moins à deux fruits. C'est d'abord aimer Jésus, et c'est ensuite lui obéir sans réserve. L'obéissance sans réserve à notre Sauveur. Pour ceux qui connaissent bien John MacArthur, il a déclaré que Jésus n'a jamais admis une prétendue foi qui reconnaît la vérité du bout des lèvres tout en poursuivant une vie de péché. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent avoir la vraie foi et ils vivent constamment, toujours dans le péché. Ce n'est pas ça la vraie foi. La vraie foi ne m'empêchera pas de trébucher, ça c'est sûr, parce que je suis encore sur la terre. Mais la vraie foi me dit, Seigneur, tu es mort pour moi. Seigneur, je veux t'aimer. Et je veux te demander de m'aider à marcher comme tu veux que je marche. Secours-moi, aide-moi tous les jours. Alors je voudrais terminer ce message, faire une conclusion. Le salut que Dieu vous offre ce matin ne peut s'obtenir ni par la religion, ni par les œuvres, et encore moins par la volonté humaine. Il ne se reçoit que par la foi du cœur à l'écoute de l'évangile de Jésus. Ne ressemblez pas, mes bien-aimés, qui m'écoutaient ce matin, ne ressemblez pas à ces juifs rebelles et incrédules de l'Évangile auxquels Jésus leur reprocha leur incrédulité. Écoutez ce que Jésus leur a dit. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous vous imaginez quelqu'un qui possède tout et toutes les réponses à nos questions, qui veut faire de nous des nouvelles créatures, qui vient nous apporter un cadeau et qui s'entend dire « Garde ton cadeau, mon ami, je n'en veux pas. » Quand je ne veux pas ouvrir la porte de chez moi à celui qui sonne, je ne lui ouvre pas. Et quand Jésus a sonné la porte de mon cœur, ou plutôt a frappé à la porte de mon cœur, un jour, il y a 40 ans, je lui ai ouvert. À Rome, dans une église, il y a un tableau qui veut dire ce qu'il veut dire. Il y a un peintre qui a représenté une porte. Et il s'est inspiré de ce texte de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et il a fait un dessin qui veut dire ce qu'il veut dire. Il a mis la poignée du côté de l'homme. Et du côté de Jésus, il n'y a pas de poignée. Ça veut dire que ce matin, la porte du ciel t'est donnée. Christ est là, derrière cette porte. Il est même appelé la porte. Seulement, la poignée est de ton côté. C'est toi qui vas décider ce matin si tu veux vraiment devenir quelqu'un de nouveau, recevoir la purification et recevoir l'Esprit Saint qui va te transformer. Toi, la chenille, en un excellent et beau papillon pour Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Alors ce gaillard de Nicodème est resté 3 ans un peu en retrait. Ça l'a travaillé. Puis quand Jésus est mort, qu'il a été crucifié, on le voit courir pour récupérer le corps de Jésus. Il s'est montré devant tous les Juifs, devant tous les Sanhédrins juifs, la haute cour religieuse de l'époque. Devant tous, il a couru, il a été chercher son sauveur. Vous vous rendez compte? Il s'est rappelé de ce texte. Quand, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que je sois élevé. Quand il l'a vu là-haut, il a dit, Seigneur, mais tu l'avais dit, tu me l'avais dit. Alors là, il a laissé sa religion, il a laissé sa confiance en lui, il a laissé sa confiance dans ses ressources personnelles. Il a couru vers le Christ. Oh, il était mort peut-être. Il l'a pris dans ses bras. Et là, aux yeux de tous, il est né de nouveau. Il a recommencé à 80 ans une nouvelle vie. C'est pas extraordinaire? Regardez au Fils de Dieu ce matin, qui a subi à votre place le châtiment de vos péchés, et croyez en son œuvre qui vous sauve de la perdition. Retenez ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, littéralement livré, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis-je vous demander de vous lever? Et l'appel que je formule ce matin, je ne vous demanderai pas de gestes particuliers. Je vous demande simplement de fermer vos yeux et là, de penser à ce que je viens de vous enseigner, de viens de vous prêcher. Et faites la paix avec Dieu. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Oh, regardez-le sur la croix et dites-vous, il a pris mon péché, il a pris ma condamnation, il a pris mon châtiment et mon jugement. Et là, croyez en son œuvre. Et le Saint-Esprit pourra appliquer sur votre vie le sang de Jésus qui vous pardonnera. Et il viendra faire de vous de nouvelles créatures. Seigneur, ce matin c'est un jour extraordinaire. Parce que tu dis que c'est le jour du salut. C'est maintenant que tu nous appelles. J'ai mis tout mon zèle. J'ai mis toute ma fougue. J'ai mis toute ma foi. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire, Seigneur, c'est produire la conviction morale dans les cœurs que ce que je viens de dire est la vérité. Alors, Esprit Saint, convainc les cœurs qui sont présents au milieu de nous ce matin, parce que c'est le jour du salut. Seigneur, ouvre les cœurs, ouvre les consciences, et que maintenant la foi de ces bien-aimés s'oriente sur Jésus et le prennent comme le sauveur de leur âme et le Seigneur de leur vie. Seigneur, nous sommes peut-être que des chenilles, mais la vision que tu as de nous, c'est de nous faire devenir des papillons merveilleux à la gloire de ton nom. Bien-aimés, mettez votre confiance maintenant dans la mort et dans la résurrection de Jésus pour vous, et vous serez lavés, et vous allez naître d'eau et naître d'esprit. Ça se fait instantanément. Merci Seigneur et à toi la gloire. Amen.